Bien, ben merci à vous pour cette sollicitation et bonjour à tous à nouveau. J'ai été présentée, donc n'y attarde pas plus. Simplement pour vous dire que le bureau K3 à la DPJ est celui et qui s'occupe de la protection de l'enfance, de la prévention de la délinquance entre autres, et donc qui est en charge notamment de du rôle de la DPJJ dans la lutte contre la prostitution des mineurs. On est vraiment ravis que ce sujet puisse être traité ce matin. C'est un sujet qu'on connaît hein, au niveau des professionnels depuis de nombreuses années et qui malheureusement, vous le savez, prend une ampleur de plus en plus importante au point qu'on en entend maintenant parler même dans les médias généralistes. Ce qui montre deux choses, et d'une, malheureusement que le phénomène prend de l'ampleur, mais également, et sous l'aspect positif, que eh bien de plus en plus de personnes s'y intéressent et essayent justement de trouver des solutions pour aider les professionnels à accompagner les mineurs qui en sont victimes. J'espère qu'on va pouvoir justement voir ensemble comment vous fournir quelques outils pour mieux comprendre ce phénomène et justement pour mieux le traiter. Ce que je vous propose, si le PowerPoint fonctionne, mais je crois que c'est le cas, c'est de voir effectivement dans un premier temps comment est-ce qu'on peut repérer ce phénomène, hein, en donner une définition par de très très brefs rappels juridiques. Je ne vais pas vous noyer évidemment sous le droit, mais je crois que c'est important quand même de savoir de quoi on parle. Et puis ensuite, dans un second temps, donc après un premier temps d'échange, de voir quels sont les moyens d'action auxquels on travaille. Alors un tout premier mot d'introduction, simplement pour vous rappeler le rôle de la DPJJ en protection de l'enfance, n'est pas toujours bien connu alors qu'elle fait partie intégrante de ses missions. Je le rappelle très rapidement, ce qui est prévu par les textes hein, depuis longtemps, c'est que la DPJJ s'occupe de l'ensemble de la justice des mineurs, donc évidemment en matière pénale, mais également en matière civile. Et depuis quelques temps, eh bien, ce rôle, il est réaffirmé par les textes. Depuis 2017, les décrets qui organisent les missions de la PJJ rappellent que celle-ci contrôle et anime l'action du ministère public, donc l'action du parquet, en matière de protection de l'enfance. Et puis, eh bien, la DPJJ va avoir un rôle de concertation entre tous les acteurs qui interviennent en la matière. Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'indiquer que la PJJ a le premier rôle, hein, on le sait, c'est le rôle des départements en matière de protection de l'enfance. Et pour autant, étant donné que l'immense majorité des mesures en protection de l'enfance, hein, plus de 80% de ces mesures, sont prescrites par la justice, eh bien, la DPJJ a évidemment son rôle à jouer. Et c'est ce qu'a pu notamment réaffirmer à la fois le garde des Sceaux, hein, qui a fait sa priorité absolue de 2026, eh bien la protection de l'enfance, et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors pour cela, eh bien nous participons à l'élaboration de la politique publique. Ça se fait au travers de plans nationaux. On va en parler tout à l'heure. Hein, sous le prisme de la prostitution des mineurs, mais il y en a d'autres. La participation à des instances nationales de gouvernance, comme le Conseil national de protection de l'enfance, le CNPE, le Groupement d'intérêt général France Enfance Protégée, l'élaboration des normes aussi, hein, on participe et on écrit évidemment les dernières lois et les derniers décrets en la matière. On dialogue aussi beaucoup avec les juridictions hein, pour connaître leur situation, pour animer des groupes de travail avec eux, pour organiser des journées également, hein, des journées de professionnels comme les rencontres de la justice des mineurs qui auront lieu à la fin du mois et qui seront justement en partie consacrées à la prostitution. Et puis, on agit et on soutient un certain nombre de partenaires en matière de protection de l'enfance. Voilà pour le cadre vraiment très global de la DPJJ en matière de protection de l'enfance, mais je crois que c'était important que chacun l'ait bien en tête. Alors, s'agissant plus précisément du sujet de la prostitution des mineurs, les objectifs principaux de la DPJJ, ils vont être doubles. Le premier, ça va être de soutenir les droits de l'ensemble des mineurs qui sont pris en charge par la justice, donc à la fois au civil, en assistance éducative et au pénal. Et puis le deuxième objectif, ça va être de défendre les besoins du public des mineurs qui sont en conflit avec la loi au titre de la protection de l'enfance et à ce titre-là de défendre une acception large de la protection de l'enfance en considérant que tous les mineurs délinquants sont des mineurs en danger. Je ne révèle rien, évidemment, c'est l'esprit de l'ordonnance de 45 qui est reprise par le Code de la justice pénale des mineurs. Pourquoi est-ce que c'est important de le rappeler en matière de prostitution, notamment? Parce que, vous le savez, les jeunes pris en charge par la PJJ cumulent un certain nombre de vulnérabilités sociales, de santé au sens large. Vous êtes mieux informés que moi en la matière, hein, puisque je ne parle que d'une place de juriste et non d'une professionnelle de santé. Mais on peut lister le défaut de compétences psychosociales, la difficile gestion des émotions, la fragilité scolaire, l'environnement défavorable, carencé, les négligences, les défauts de recours en soins, etc. Et du fait de ces vulnérabilités qui se cumulent, eh bien, les jeunes qui ont un parcours en protection de l'enfance sont plus susceptibles que les autres d'être victimes d'exploitation sexuelle. On a parlé de chiffres tout à l'heure, alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on a effectivement un certain nombre d'études qui montrent que les mineurs victimes de prostitution au sein de l'aide sociale à l'enfance sont extrêmement nombreux. J'ai sous les yeux une étude qui parle de 15 000 mineurs, par exemple. Alors, je vais passer au premier point sur le phénomène de la prostitution des mineurs. Et je vous le promets à nouveau, hein, ce ne sera pas long, mais je crois que c'est important de savoir de quoi l'on parle. Le phénomène de prostitution des mineurs, il est mouvant, tout simplement dans un premier temps parce qu'il n'est pas défini légalement. On n'a pas de définition légale de la prostitution, même si plusieurs articles du Code pénal y font référence, mais ils ne viennent pas définir ce phénomène. Et c'est donc une jurisprudence de la Cour de cassation de 1996, hein, donc qui est un peu ancienne, qui vient indiquer que la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques, de quelque nature qu'ils soient, pour satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Alors vous le voyez tout de suite, cette définition, elle correspond évidemment au phénomène classique, hein, de prostitution, et pour autant, elle ne vient pas prendre en compte le développement du numérique, puisqu'elle vient exiger un contact physique. Or, quid des shows webcam érotiques, par exemple, hein, qui se développent de plus en plus? C'est une question qui a beaucoup fait débat et le groupe de travail de Madame Champrenault qui avait été créé en 2021, eh bien, avait notamment proposé de revoir la définition de la prostitution pour inclure justement toutes ces questions-là. Finalement, aucune définition n'a été donnée puisque la loi du 21 avril 2021 est venue réprimer ce qu'on appelle la sextorsion. Donc, c'est une nouvelle infraction qui consiste pour un adulte à inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur Internet. Il fait que on a, malgré cette définition jurisprudentielle un peu trop classique, eh bien, on vient aujourd'hui juridiquement englober toutes ces pratiques numériques dans le champ de ce qui est pénalement répréhensible. En 2002, ça date hein, déjà, en 2002, avec la loi du 4 mars relative à l'autorité parentale, on vient indiquer deux phénomènes extrêmement importants qui sont le fait que la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République. Et le deuxième principe, que tout mineur qui se livre à la prostitution est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants. Ça paraît évident, je le redis quand même, parce que au fur et à mesure des échanges, même avec des professionnels aguerris, on se rend compte que c'est pas encore rentré dans l'esprit de chacun et que eh bien, avec le terme de prostitution, il y a toujours cette idée qu'il y a une forme de consentement. Or, depuis 2002, je le redis, il n'y a pas question, il n'est plus question de consentement pour les mineurs. Un mineur qui se prostitue est un mineur en danger et la prostitution est interdite. Même une jeune fille qui vient indiquer que, eh bien, elle n'est pas contrainte, qu'elle agit de son plein gré. Eh bien, ne peut pas, on ne peut pas nier le fait qu'elle soit en danger. Et évidemment, elle n'est pas susceptible de poursuite à ce titre. Tant et si bien que juridiquement, on a un lien évident hein, qui se fait entre la prostitution et la traite des êtres humains. Alors, d'un point de vue juridique, les qualifications de traite ce qu'on appelle la TEH et de proxénétisme sont extrêmement proches, puisque le proxénétisme est une forme de traite des êtres humains. Vous en voyez la définition qui doit s'afficher à l'écran. Et puis, d'un point de vue des politiques publiques également, eh bien, on le verra tout à l'heure, les deux phénomènes sont extrêmement liés. Et les plans et stratégies nationales qui cherchent à lutter contre la prostitution des mineurs, eh bien, sont en réalité très proches de ceux qui cherchent à lutter contre la traite des êtres humains. Je reviens simplement sur le dernier point que j'ai indiqué sur la diapo, qui fait référence à cette question du consentement supposé. Hein, des victimes de prostitution des mineurs, un certain nombre d'acteurs réfléchissent à ne plus utiliser le terme de prostitution des mineurs, justement parce que ça peut renvoyer encore dans l'esprit de certains à la question d'un acte voulu et consenti. Ils incitent plutôt à parler d'exploitation sexuelle. Et quand on parle d'exploitation sexuelle des mineurs, eh bien, on a une dimension qui est encore plus explicite hein, du caractère illégal de cette pratique. Maintenant qu'on a mieux défini juridiquement ce phénomène, je vous en propose une description très rapide, puisqu'on en a déjà parlé rapidement. Quelques chiffres, même si vous aurez tout à l'heure Monsieur Essadec qui viendra vous présenter son étude, mais pour vous dire que c'est un phénomène qui est vraiment en constante augmentation, de plus en plus, notamment depuis la crise sanitaire, parce que c'est un phénomène qui est extrêmement mouvant dans ses formes. La crise sanitaire a évidemment entraîné un repli hein, sur les réseaux sociaux et avec eux, eh bien, ce phénomène de prostitution qui ne se fait plus aujourd'hui ou de façon résiduelle dans la rue, mais qui se pratique via une mise en contact par les réseaux sociaux, vous le savez, et qui se pratique en appartement. Hein, ce qui fait qu'elle est encore plus difficile à identifier et à chiffrer. Vous avez quand même à l'écran quelques chiffres qui vous montrent que le phénomène est massif et surtout que la part des mineurs est extrêmement importante, hein, environ 30% des personnes en situation de prostitution seraient des mineurs, et c'est une part qui est en forte augmentation. Quelques caractéristiques des personnes qui sont concernées par la prostitution. S'agissant des victimes, il s'agit pour une grande part d'entre elles de filles entre 13 et 17 ans, même si l'âge d'entrée dans la prostitution est de plus en plus jeune. Ces victimes qui sont issues de tous les milieux sociaux, je le redis, hein, parce que on peut avoir des milieux sociaux favorisés qui ne se sentent pas concernés, alors qu'en réalité, ça peut être le cas. Même si, bien entendu, je ne reviens pas sur les vulnérabilités que j'ai indiquées tout à l'heure et qui favorisent l'entrée dans la prostitution. Un des points communs entre toutes ces jeunes filles, c'est souvent qu'elles ont été victimes de violences intrafamiliales ou sexuelles préalablement à leur entrée dans la prostitution des mineurs. Ces jeunes filles sont en grande majorité françaises. Je l'indique parce que là encore, on a de temps en temps des idées reçues sur la question. À 90%, elles sont nationalité française, sauf en Outre-mer, où là, la situation s'inverse et ce sont surtout des jeunes filles d'origine étrangère qui sont victimes de prostitution. On a également des garçons qui sont victimes et pour ceux-ci, ce sont majoritairement des mineurs non accompagnés. Et puis, je voulais aussi insister sur l'importance d'études. On connaît bien, évidemment, en protection de l'enfance et à la PJJ, parce que ces fugues, vous le savez, ne sont pas anodines et qu'on estime qu'environ un tiers des fugues des jeunes filles sont liées à la prostitution. Soit que la prostitution en soit le motif, hein, on fugue pour aller se prostituer parce qu'on est sous l'emprise d'un réseau notamment, soit que ce soit le moyen par lequel, pendant une fugue, eh bien, la jeune fille va se faire héberger, trouver à se nourrir, etc. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas à prendre à la légère. S'agissant des auteurs, ce sont très majoritairement des hommes, des auteurs de proxénétisme, hein, entre 18 et 24 ans en moyenne. Et puis, je voulais rappeler rapidement ce que vous connaissez très probablement, hein, les phénomènes de déni de la part de ces jeunes filles qui ne vont jamais se dire victimes de prostitution, mais qui vont se définir souvent comme des escortes, qui vont indiquer qu'elles travaillent, hein, qui vont emprunter un vocabulaire au monde du travail avec des contrats, des recrutements, des entretiens d'embauche, etc., ce qui va contribuer au déni de leur statut de victime. Je voulais rappeler également le mécanisme du loverboy qui vient brouiller la conscience que peut avoir la victime entre ce qu'elle souhaite et puis en réalité l'instrumentalisation dont elles font preuve de la part de celui qu'elles considèrent comme leur petite amie, ainsi que un phénomène de glamourisation qu'on peut avoir également. Voilà, j'arrive à l'issue de cette première partie de présentation, qui ne sont sans doute que des rappels pour vous, mais qui peut-être permettent d'avoir tous les mêmes idées en tête. Est-ce que vous souhaitez d'ores et déjà voilà, des précisions? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je suis à votre disposition pour un premier temps d'échange.
Alors, oui. On a une question qui arrive. Ça marche pas?
Merci, bonjour. Juste une petite précision, quand vous parlez des profils des auteurs, vous parlez des proxénètes ou des clients ?
Non, non, pardon, je parlais des proxénètes. S'agissant des clients, les études dont on dispose montrent que ce sont, comme pour les majeurs, en réalité majoritairement des hommes, à 99%, avec un âge très très large qui varie de la minorité à des individus d'une soixantaine d'années. Donc c'est vraiment très large s'agissant des clients. Peut-être rajouter s'agissant des auteurs, même si majoritairement, donc des auteurs de proxénétisme, même si majoritairement ce sont donc des hommes entre 18 et 24 ans, on a également des jeunes filles qui sont poursuivies pour proxénétisme. Et dans ces cas-là, même si on dispose pas de, en tout cas à mon niveau, hein, de chiffres pour l'objectiver, mais on a un certain nombre d'entre elles qui sont en situation double, puisqu'elles ont été victimes elles-mêmes de prostitution, et que pour en sortir, souvent, eh bien, elles sont amenées à prendre une autre place dans le réseau et à devenir elles-mêmes des proxénètes. C'est le phénomène qu'on connaît bien, hein, dans les foyers où une jeune fille va en entraîner une autre, voire devenir proxénète à son tour.
Bonjour Alice, moi je voulais juste peut-être rajouter au niveau des chiffres que tu as pu dire, il y a eu, tu sais, l'étude santé sur auprès des jeunes, donc 621 jeunes ont été interviewés, et c'est plus sur le numérique et la marchandisation. On a quand même quelques chiffres, hein. Tu faisais état tout à l'heure au niveau du numérique, on a 47,3% qui indiquent avoir eu des rapports sexuels avec une personne rencontrée en ligne. 46,7% ont visionné des contenus pornographiques et 7,7% indiquent avoir eu des rapports sexuels en échange de cadeaux, services ou argent. Donc c'est vrai que ça vient quand même compléter voilà les éléments qu'on peut avoir par rapport au, là vraiment ce sont des jeunes suivis par la PJJ. Donc je voulais juste voilà amener ce petit complément et je laisse la parole voilà. Amélie.
Juste, oui, alors moi j'ai travaillé sur ce sujet-là avec l'amicale d'Uni.
Ah, pardon, non, elle était avant, je l'avais coupée. Non, vas-y.
Oui, je voulais rebondir justement ce que vous disiez par rapport aux filles anciennement victimes qui deviennent par la suite auteurs, par défaut souvent. Et dans les caractéristiques, vous parlez des milieux défavorisés avec les violences intrafamiliales. Donc, on parle aussi souvent un grand pourcentage parce qu'on travaille aussi avec Amicale d'Uni sur l'Hérault. Et là, c'est les caractéristiques, mais je voulais revenir vers les facteurs aussi à risque. Et malheureusement, la protection d'enfance, donc conseil départemental et l'ASE, ben, selon les études que nous avons vues et selon les constats, partie des facteurs de risque. Nous avons les jeunes filles issues des familles où il y avait la violence ou autre, donc ils étaient placés dans les foyers d'enfance. Sous 48 heures, ils ont recruté justement par les anciennes filles qui sont devenues autrices parce qu'ils veulent se protéger, ils essaient de trouver d'autres solutions. Donc, ils vont recruter leurs camarades de chambre sous 48 heures. Et justement, souvent, les fugues elles sont liées à cet démarrage de la prostitution. Et ce qui est aussi à dire, c'est que les auteurs, les réseaux de proxénétisme, ils sont tellement forts en termes d'utilisation de nos propres institutions. C'est que, voilà, il y a des fugues, mais après, les filles reviennent. Ils reviennent justement pour se réparer, pour se cicatriser et repartir. Et s'il revient, c'est justement les réseaux qui les laissent partir parce que c'est tout un système et nous, on est parti des systèmes. Donc pour moi, peut-être, voilà, quand on parle des caractéristiques, il y a aussi les facteurs. Et ces jeunes filles qui rentrent dans la prostitution, finalement, souvent, on a les éducatrices, les milieux ouverts, on se pose des questions. Qu'est-ce qui est plus facteur à risque ? Laisser un enfant où il y a des négligences, où il y a la maman qui est alcoolisée et que l'enfant ne mange pas à sa faim, ou le mettre en foyer d'enfance. Voilà, je ne sais pas si dans les autres territoires, ils ont le même constat.
Merci.
Alors, peut-être tenter une réponse. Je pense que tout à l'heure, je disais que c'était un phénomène qui laissait énormément de professionnels démunis. Hein, je crois que c'est ce que je perçois de votre question. Effectivement, on a énormément de retours ou d'expériences hein, en tant que professionnel sur le fait que on se pose ces questions-là. Hein. Est-ce que en plaçant ces enfants, on ne va pas bien les soumettre à un risque supplémentaire? Je crois que parmi les facteurs, je ne dirais pas hein, que le placement est un facteur de prostitution. Je pense que c'est vraiment les vulnérabilités qui préexistent, qu'ils le sont, que malheureusement, il ne s'agit pas de nier hein, le fait que un certain nombre de foyers sont repérés par ces réseaux. Bien au contraire, on le sait et on sait que y a ce phénomène de recrutement qui s'offère maintenant peut-être pour tenter un regard optimiste sur la question. Le but justement, et je vais peut-être y aller, sauf s'il y a, il y a d'autres questions dans la salle, mais c'est essayer de voir quels sont les leviers d'action qu'on a à notre niveau et comment est-ce qu'on peut justement endiguer ce phénomène. En tout cas, essayer.
Oui, alors je m'inscris un peu dans la transition, mais deux chiffres. Effectivement, l'Amicale d'Unis parle d'un... c'est pas eux qui l'ont, mais c'est une étude qui est sortie disant qu'une jeune fille en placement en protection de l'enfance a une proposition dans les 24-72 heures. Une proposition de prostitution, donc ça c'est un des chiffres aussi qui nous interpelle, et ça fera levier peut-être avec la suite de votre présentation. Et après, je trouve que ce qui est super important, c'est la question du clientélisme. On ne le met pas assez, un chiffre qui sort, c'est un homme sur sept aurait recours à la prostitution. Et en termes d'éducation à la vie sexuelle affective, en tout cas en termes de, à l'adolescence, agir sur la question du clientélisme, ça me paraît aussi important de le mettre en lumière, cette dimension-là que des fois on oublie. S'il n'y aurait pas de consommateurs, il n'y aurait peut-être pas de proposition. Voilà, c'était juste ça.
Oui, Donc ma question, c'est juste lorsque vous avez commencé votre exposé, vous avez parlé de mesures civiles et mesures pénales. Moi, je suis à la PJJ depuis 2002. À un certain moment, ils nous ont dit allez, les mesures civiles, donc vous arrêtez. Donc la PJJ, elle se concentre sur le pénal. Et pourquoi maintenant ce revers d'un coup, on revient vers le civil? Et donc, ça peut perturber quand même le fonctionnement. Moi, je m'occupe de la santé, hein, donc je suis pas du tout dans le côté éducatif. Mais voilà, donc ma question, je dis d'un coup, donc il y a des années, ils nous ont dit, concentrez-vous sur le pénal. Et maintenant, ils disent, revenez sur le civil. Et pourquoi ce revers?
Alors, je vais tenter là encore une réponse à votre question. La première, pour indiquer que ce n'est pas un revirement soudain. Hein, ça fait des années, en réalité, même si ça se perçoit de plus en plus depuis quelques années, mais c'est depuis au moins 2017 hein, qu'il y a cette volonté de revenir sur la place de la DPJJ en protection de l'enfance. C'est en 2017 que le législateur indique à la PJJ qu'elle doit animer l'action du parquet en matière de protection de l'enfance. Donc, vous voyez, ça fait déjà au moins 8 ans en tous les cas, dans les textes, il y a cette volonté-là et qui s'accroît là au fil du temps. Maintenant, alors, je ne suis pas évidemment à la place du législateur, hein, mais... une tentative d'explication, ça peut être que justement, et je ne vous apprends rien, la prostitution des mineurs en est un exemple, mais il y en a bien d'autres. La protection de l'enfance est en grande difficulté. Hein, on peut parler, ça a été fait par de nombreux rapports parlementaires, d'institutions, que je ne vais pas tous citer ici, mais on parle de crise hein, de la protection de l'enfance. Et encore une fois, c'est pas nouveau, ça fait quand même plusieurs années que la situation est extrêmement critique. Tous ces rapports appellent l'État et donc la justice à réimpliquer encore davantage dans la protection de l'enfance, dans la justice des mineurs. Et je rappelle que Même si il y a souvent cette idée que la féminine se concentre, et c'est vrai, ça a été une inflexion pendant plusieurs années, mais je voudrais rappeler quand même que 40% des mineurs aujourd'hui qui sont pris en charge par la PMI le sont au titre civil. 40%. Donc, on n'est pas sur une prise en charge anecdotique. On est quand même sur un petit peu moins de la moitié. Certes, ce sont des prises en charge principalement au titre d'MJ. Et pour autant, on sait tous ici hein, le caractère absolument essentiel de CMJ. Et ça montre quand même que la PJJ ne s'est jamais complètement désinvestie de la protection de l'enfance. Voilà, c'est la réponse que je peux vous faire, même si évidemment ce n'est pas, je suis pas décisionnaire en la matière, et c'est une volonté du législateur. Est-ce que, si vous le voulez bien, je peux passer à la deuxième partie? Pardon, je vois mal la salle, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
On a suspendu les questions, Madame Bonatti. On vous rend la parole.
Je vous remercie, mais c'est surtout parce que, et c'est bien normal, j'ai l'impression au fil des questions qu'il y a une inquiétude hein, des professionnels vis-à-vis de ce phénomène qui nous dépasse tous. Et j'espère pouvoir vous présenter quelques outils qu'on essaye de développer pour vous accompagner dans ce travail au quotidien. Alors justement, les moyens d'action. On essaye d'y travailler à plusieurs niveaux, au niveau national et au niveau local. Au niveau national, parce que la DPJJ participe à un certain nombre de plans et d'actions de lutte contre la prostitution des mineurs depuis 2021. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail qui va vous sembler très abstrait, mais sachez qu'il y a trois stratégies de lutte contre la prostitution des mineurs, certaines qui sont plus axées sur la traite et l'exploitation sexuelle, une qui est plus axée sur la répression, et l'une qui se consacre totalement à la question des mineurs victimes. Alors peut-être pour que ce soit plus pour que ce soit plus concret pour vous, ces plans, ce qu'ils viennent, en quoi est-ce qu'ils viennent concrétiser l'action de la PJJ? Eh bien, les différentes mesures dans lesquelles on est impliqué vont viser à poursuivre le développement des formations. J'ai consulté récemment, et notamment pour préparer cette intervention, le catalogue de formation de l'ENPJJ en matière de protection de l'enfance. Je crois que les interventions au titre de la prostitution des mineurs sont proposées par tous les PTF ou quasiment, et que c'est vraiment une formation qui attire de nombreux professionnels, qu'il s'agisse des professionnels PJJ ou des professionnels du secteur de la protection de l'enfance. Ces plans, ils nous incitent aussi à améliorer la prise en charge des mineurs en situation de fugue. J'ai rappelé tout à l'heure à quel point les fugues étaient liées à la prostitution. Sachez qu'on travaille en lien avec les services de l'intérieur, donc les forces de l'ordre, la justice, la santé, à des modules de meilleure prise en compte de ces situations de fugue. On en parlera peut-être tout à l'heure lors des échanges, mais on a notamment un fort besoin au niveau des forces de l'ordre de bien prendre en compte la dimension de danger que peuvent vivre ces jeunes filles lorsqu'elles fuient. On en parlera tout à l'heure, mais ces plans visent également à développer un réseau national de lieux d'accueil et de prise en charge des mineurs victimes d'exploitation sexuelle, justement pour faciliter l'éloignement géographique de ces mineurs, de leur réseau. Et puis, on poursuit par ces plans le travail de recherche sur l'exploitation sexuelle des mineurs, notamment dans les territoires ultramarins, pour en connaître davantage sur le phénomène et surtout valoriser les bonnes pratiques territoriales au niveau national. La DPJJ va également essayer de bien d'appuyer hein, les professionnels grâce à des conventions. On a parlé tout à l'heure et vous allez rencontrer des professionnels de l'association Agir contre la prostitution des mineurs, qu'on soutient et qu'on subventionne à la fois pour son action, évidemment, au profit des parents, des enfants et des professionnels, de façon générale et plus particulièrement pour les professionnels et les mineurs subis par la PJJ, mais il y en a d'autres. Hein, on peut citer l'association e-Enfance, qui gère le numéro national 3018, qui est le numéro national d'appel pour toutes les violences numériques, ainsi que, par exemple, l'association Hors la rue, qui est sans doute connue des professionnels d'Île-de-France parmi vous, qui a notamment pour mission de repérer les mineurs en situation d'errance et de les accompagner vers des dispositifs de droit commun et d'accompagnement. Je cite aussi l'association ECPAT, hein, avec laquelle on est en cours de conventionnement. L'ensemble de ces conventions, elles visent à mieux sensibiliser, à mieux aider au repérage et à l'accompagnement de ces mineurs. Une des actions également majeures hein, qui est entreprise par la PJJ, c'est le financement du centre Coup de Chat. Centre qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le seul lieu d'accueil en France des mineurs victimes de traite des êtres humains, quelle que soit la forme d'exploitation subie. C'est un centre que la DPJJ finance, qui accueille des mineurs de toute la France, orientés soit par l'ASE, dans le cadre d'une prise en charge civile, soit par la PJJ, dans le cadre d'une prise en charge civile ou pénale. C'est un centre qui bénéficie de conditions d'accueil spécifiques en termes de sécurité, hein, puisque son adresse est tenue confidentielle, puisque son mode de fonctionnement vise à éviter toute communication avec l'extérieur, pour éviter justement tout risque de récupération par les réseaux. Donc, les jeunes n'ont pas accès à leur téléphone portable, ils utilisent un alias. Les situations de transfert obéissent à un protocole particulier pour éviter justement tout risque. Et au sein de ce centre, eh bien, le suivi est particulièrement individualisé avec un accompagnement pluridisciplinaire qui, évidemment, met beaucoup l'accent sur la santé, hein, la santé somatique et, évidemment, également psychologique. C'est également un accompagnement qui met l'accent sur l'accompagnement juridique et judiciaire. Et j'en parle parce que je fais le lien avec la santé, la reconstruction de soi. En 2023, on a un peu plus de la moitié des mineurs accompagnés par ce centre qui ont déposé plainte pour des infractions de traite ou d'exploitation des êtres humains et qui donc se sont reconnus victimes, ce qui, vous le savez, n'est pas évident hein, en la matière. Donc, on a vraiment ce travail qui est fait pour que les mineurs reconnaissent leur situation et pour évidemment leur permettre d'avancer. En lien avec cette association, la DPJJ aide au développement du réseau SATOUC, donc qui est en lien avec l'association Coup de Chat. L'association ne peut pas accueillir un nombre important de mineurs. Hein, c'est actuellement un petit centre qui accueille uniquement 8 mineurs, qui a 8 places. Vous imaginez bien que la liste d'attente est très importante et que un seul centre ne peut pas suffire à répondre à aux besoins nationaux en la matière. C'est pourquoi ce qui est prévu, c'est le développement dans le cadre de ce réseau de de lieux d'hébergement qui existent actuellement partout en France. On en a 24 sur l'ensemble du territoire, que ce soit des MEX, des lieux de vie, des foyers de jeunes travailleurs, etc., qui bénéficient d'une formation spécifique à la prise en charge des jeunes victimes de TEH et en particulier de prostitution des mineurs, et d'un appui de la part de l'association Coup de Chat. Le but, évidemment, mais on en a parlé, hein, c'est de permettre l'éloignement des mineurs de leur lieu initial de prise en charge et surtout leur protection pour que les réseaux ne puissent pas les retrouver. Ces actions qui sont travaillées au niveau national, eh bien, elles se déclinent au niveau local avec une coordination des acteurs importantes. Hein, j'ai parlé tout à l'heure du rôle du parquet. J'aimerais parler également des protocoles qui peuvent nouer entre les juridictions, la DPJ, les forces de l'ordre, les associations. Et qui viennent sur certains territoires faciliter très fortement la prise en charge de ces mineurs. Il y en a plusieurs. Hein. On pense au protocole qui existe, par exemple, avec l'Amicale du Nid au tribunal judiciaire de Bobigny. On a également un protocole avec Hors-la-Rue qui existe à Paris. Et pour s'éloigner de la région parisienne, un protocole dont vous allez parler, je crois, avec la Cour d'appel de Metz en Moselle, qui facilite vraiment la coordination de ces actes. Un des rôles importants, c'est de s'assurer que les mineurs, dans le cadre des différentes procédures judiciaires, sont bien pris sous l'angle du danger. Hein, on a toujours cette question de l'opportunité des poursuites. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que un mineur en situation de prostitution, soit bien traité au regard du danger qu'il encourt. Une instance importante et qui est amenée à le devenir davantage, c'est également la commission départementale de lutte contre la prostitution. Commission qui se développe sur tout le territoire, mais qui jusqu'à présent n'incluait pas nécessairement les mineurs. Or, on l'a vu, les mineurs sont quand même une part très significative des personnes en situation de prostitution, qui fait que on attend très prochainement un décret qui vient fixer parmi les membres de cette commission, eh bien, des agents de la PJJ qui pourront participer à la commission départementale de lutte contre la prostitution au titre des mineurs et justement venir échanger avec les autres acteurs en la matière pour élaborer des stratégies locales et examiner les situations individuelles des mineurs. Enfin, je voulais vous parler de quelques outils qui pourront peut-être vous être utiles. En tous les cas, on l'espère. Les partenariats, la CPE vous en parlera. Mais au-delà, je crois que ça affiche à l'écran un certain nombre de liens utiles et je laisserai évidemment le support PowerPoint à disposition. Un certain nombre de liens qui sont particulièrement utiles, développés soit par des acteurs associatifs de la protection de l'enfance, soit avec le soutien de la PJJ. Le premier, c'est l'application Sexploited, qui permet de mettre en lien directement les personnes en situation de prostitution et des structures qui pourront les aider en la matière. Le deuxième qui s'affiche en dessous, c'est une carte interactive développée par l'association Droits d'enfance et qui vise à répertorier sur l'ensemble du territoire les structures d'aide en matière de santé et plus particulièrement en matière d'exploitation sexuelle. Donc pour chaque territoire, on a la liste des structures qui existent. Et puis, je voulais vous parler du centre de victimologie pour les mineurs qui a été notamment financé par la PJJ et qui a développé une mallette de sensibilisation avec un guide de repérage, un guide d'entretien et des vidéos de sensibilisation à destination à la fois des professionnels mais également des parents pour aider justement à savoir, je crois que voilà, vous avez les petites vignettes qui s'affichent à l'écran et que vous pourrez évidemment regarder. Ce sont des petites vidéos de 3-4 minutes qui viennent traiter à chaque fois un sujet. Par exemple, quels signes doivent alerter sur une situation de prostitution? Comment est-ce qu'on va parler à un mineur? Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver de l'aide nous-mêmes, etc. Je vous invite vraiment à aller consulter ces vidéos qui... sont très bien faites et qui peuvent donner quelques pistes. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'importance de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, à la fois côté, je veux dire côté client et côté victime hein, de prostitution, en tous les cas, pour tous les jeunes qu'on accompagne, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons, l'importance de connaître les notions de consentement, de relations saines, le rapport au corps, etc. On les diffuse, mais je les remets ici, un certain nombre de sites que vous devez connaître qui sont des sources importantes d'informations, ainsi que un certain nombre de guides qui ont été développés par les collègues des territoires, par exemple le guide Parlons égalité femmes-hommes, qui va proposer des vignettes historiques sur les relations hommes-femmes, des quiz, etc. Des ateliers aussi qui ont été développés, notamment en Saône-et-Loire et en Côte d'Or, pour permettre d'aborder avec des sages-femmes et des professionnels de santé, la question des relations amoureuses et de la santé sexuelle. Et puis, le guide qui s'affiche à l'écran sur la prévention de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles de la direction interrégionale ITFOM, qui vient donner pour notamment la prostitution, des définitions, des chiffres clés, mais beaucoup aussi d'outils, comme par exemple le michtomètre, dont on pourra parler tout à l'heure si vous ne le connaissez pas, mais qui est un outil très utile pour parler justement aux jeunes filles victimes de prostitution et les aider à prendre conscience de leur situation de victime, ainsi qu'un annuaire des acteurs locaux qui peuvent être sollicités en la matière. Voilà, je crois que mon temps de parole est écoulé. Je vous laisse donc avec une bibliographie que j'ai essayé d'élaborer de la façon la plus exhaustive possible et je suis évidemment à votre disposition pour un nouveau temps d'échange. Je vous remercie.
Merci. Alors, on a une première question là-haut.
Bonjour, moi je voulais juste vous poser une question parce que c'est pas très clair pour le circuit en lien avec la CRIP pour les jeunes filles justement qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Est-ce qu'on doit faire une information préoccupante? Est-ce qu'on doit signaler? Et après le circuit avec les forces de l'ordre, quand les jeunes filles fuguent par exemple, comment on s'articule concrètement?
Alors, avec les forces de l'ordre, moi, ce que j'imagine, hein, que vous avez des protocoles qui sont prévus à chaque fois, mais ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait qu'il ne faut pas, faut se battre en fait contre le phénomène de banalisation. On le sait, hein, on a un public qui est particulièrement à risque. En matière de prostitution, qui est aussi particulièrement à risque en matière de fugue, Et malheureusement, dans certains territoires, on a des forces de l'ordre qui, en tout cas, c'est les retours d'expérience qu'on peut avoir, qui parfois ne prennent pas suffisamment au sérieux les situations de fugue. On le sait, hein, et c'est une marge de progression très forte qui a été notamment identifiée dans le cadre des plans et stratégies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est pour ça justement qu'on essaye de mieux former les professionnels également côté force de l'ordre et d'améliorer la prise en charge des situations en matière de fugue. Voilà, petit aparté. Maintenant, en matière de circuit, lorsque vous avez une situation de prostitution, il me semble évident, hein, qu'on va avoir une information préoccupante. Ensuite, libre à la CRIP de mener son évaluation. Mais effectivement, à partir du moment où on a des signaux et des alertes qui nous font penser à une situation de prostitution, et c'est une situation qu'il faut demander à faire évaluer au plus vite.
Dans la continuité, en fait, peut-être que sur cette question qui est assez importante, parce que souvent les éduques PJJ, quand on arrive à une situation comme ça, ils font des notes au magistrat. Ils privilégient la note au magistrat plutôt que le signalement. Ce qui n'est pas du tout pareil en termes de procédure et d'investigation. Et l'autre point, l'autre faille, et ça nous, sur notre territoire, on l'a travaillé avec la protection de l'enfance, c'est la question de qu'est-ce qu'on écrit sur un signalement. Malheureusement, il y a beaucoup de ressentis qui sont écrits, et en fait, on a eu une intervention d'un procureur qui nous expliquait qu'en fait, peut-être des fois, 80% des signalements pour situation prostitutionnelle n'étaient pas traités par défaut de faits caractérisés. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun élément permettant... une investiguer, enfin suffisamment ou investiguer, même l'investigation, il pouvait même pas y aller en fait, parce qu'il y avait trop peu d'éléments pour. Donc je sais que, en tout cas sur le Tarn, il y avait un gros travail qui a été fait sur comment on écrit, qu'est-ce qu'on écrit sur un signalement, comment on factualise, quels sont les éléments qu'on repère. Et ça, c'est vraiment des choses qui, ça manque en procédure. Hein. En tout cas, la PJJ, c'est pas encore clair. Et souvent, il y a une façon d'agir qui est en mode parapluie. Plutôt que en protection du jeune en fait. Et aussi ayant fréquenté la commission départementale là, de lutte contre la prostitution, la posture des préfets est aussi questionnante, qui aimerait traiter ces jeunes filles comme des auteurs en fait. Dans le il y a un traitement comme si elles étaient coupables de quelque chose, et des postures des forces de l'ordre qui vont avec celles de la préfecture. Où justement ils aimeraient avoir accès à leur portable. Alors, bien sûr, accès à leur portable, mais il y a vraiment elles sont coupables en fait. Et on discutait avec ma collègue aussi, et aussi l'impact de la question de la fugue, pour rebondir aussi sur la question de la fugue. Des fois, la fugue, il y a un traitement, on va dire, sanctionnant de la fugue pour travailler la désistance, quoi. Je sais pas comment on dit le mot, mais en tout cas pour éviter que le jeune récidive. Mais quand une jeune fille a fait 10 passes par jour pendant 5 jours avant d'être redéposée devant les portes d'un foyer qui soit judiciaire, qui soit justice ou civil, en fait, quand elles reviennent, des fois elles sont gueulées parce qu'elles ont fugué, parce qu'elles sont. En fait, la posture de l'adulte, tellement il est démuni. Enfin, je n'accuse pas les professionnels, mais en fait, la déstabilisation que ça vient créer chez le professionnel en termes de posture, des fois, on a des réponses qui sont, avec du recul, violentes. Enfin, en tout cas, ça rajoute de la violence, comme les parents derrière. Et s'il n'y a pas d'autres questions, juste un partage d'expérience. J'ai fait du théâtre forum, pareil, avec le Mouvement d'Uni et une association qui s'appelle l'École citoyenne, qui mettait en scène un couple lambda qui se retrouvait avec une gamine qui se prostitue, parce qu'en fait, ça part d'un truc où ils trouvent un soutien-gorge en dentelle dans les trucs, dans les affaires. Donc, il y a tout ce théâtre forum avec que des professionnels de l'enfance et de la jeunesse, de manière globale. Ce qui est très interrogeant, c'est la posture de ces professionnels qui ont besoin d'incriminer les parents pour pas s'identifier à eux. Et c'était très intéressant, enfin, en tout cas, si vous avez un jour l'expérience de faire ça, c'est hyper intéressant de voir tous ces professionnels, en fait, qui, tellement ça vient les impacter, parce que c'était monsieur et madame tout le monde, en fait, qu'on avait dans cette scène, et de se retrouver face à ça, ils avaient besoin de dire qu'ils étaient défaillants, qu'ils avaient un problème. Qu'ils... Donc aussi, comment on va traiter la famille dans ce genre de situation-là, c'est aussi des choses, des axes où il faut peut-être qu'on se penche aussi.
Oui, je vous remercie. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses dans votre intervention et je ne vais pas répondre à tous les points que vous avez formulés, mais simplement redire que on a la nécessité d'une évolution des pratiques professionnelles. Je pense au niveau à tous les maillons de la chaîne. J'ai beaucoup parlé des forces de l'ordre, je ne vais pas y revenir. La raison, évidemment, aussi de l'intervention des différents ministères en la matière, c'est de former toutes les parties prenantes. Au niveau des magistrats également, c'est une situation qui interroge beaucoup. Et on a, il s'agit pas d'une volonté évidemment consciente des professionnels de mal faire ou de mettre de la violence dans ce qu'ils peuvent renvoyer aux mineurs, mais il s'agit, je pense, d'une méconnaissance parfois d'un certain nombre de phénomènes, raison de ces formations. Vous avez parlé d'un aspect qui me semble très intéressant aussi. Alors, je parle pas avec, j'ai pas pratiqué au parquet, mais quelques temps en tant que juge des enfants, donc je me permets de reprendre cette casquette-là à ce titre-là. Vous avez parlé des signalements. Qu'est-ce qu'on met dans un signalement? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on met dans une évaluation? Il est évident que le magistrat il va faire avec ce qu'on lui donne. Et que malheureusement, effectivement, parfois dans des rapports, on n'a pas les éléments suffisants pour nous permettre d'apprécier la situation. Je rappelle que le parquetier, hein, il va sans doute pas rencontrer le mineur, il va devoir se décider en très peu de temps. Donc, il lui faut effectivement des éléments le plus précis possible. C'est difficile parfois, mais j'invite tous ceux qui le peuvent à rédiger leur rapport, les informations préoccupantes, les signalements de la façon la plus précise et la plus objective possible. Indiquer quels sont les signaux d'alerte, qu'est-ce qu'on a repéré, les changements de comportement, vous les connaissez par cœur, hein, je pense, mais voilà, les changements de comportement, les changements d'aspect vestimentaire, les cadeaux, le mode de vie, etc., qui vont permettre de mettre la puce à l'oreille du magistrat pour qu'il traite la situation de la meilleure manière qu'il soit.
Alors en fait, la question, elle est surtout que de territoire en territoire, on n'est pas sur les mêmes protocoles et les mêmes avancées. Moi, par exemple, sur mon territoire, j'ai deux départements et je vois bien que cette question de la prostitution des mineurs, elle n'est pas traitée pareil dans les deux départements. Il y a un département où on a une commission à la préfecture, où il y a la préfecture, le CD, le mouvement d'Uni, la PJJ et l'hôpital. On a l'UAPED aussi autour de la table, la gendarmerie, et là c'est le protocole est clair. Quand les filles elles reviennent, elles ont un parcours, je dirais, qui est fléché. Dans mon autre territoire, on n'en est pas là du tout. Ça veut dire qu'en fait, quand elles reviennent de fugue, voilà, et que elles verbalisent en tout cas quelque chose qui peut laisser penser qu'elles ont été victimes de prostitution, et ben là, les réponses données vont être complètement hétérogènes. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à quelque chose du parcours, parce que la temporalité n'est pas la même. Même dans mon territoire le protocole est bien ficelé, ces jeunes filles, elles vont et elles viennent. Et tout à l'heure, vous parliez de 8 places pour Coup de Chat, hein, qui est une association avec laquelle on travaille bien. Sauf que au moment où elle vient et on l'a dans nos murs pendant 3 jours et qu'on fait plein d'examens, et ben Coup de Chat, ils vont pas avoir de la place. Et puis elle va repartir. Et puis il y aura peut-être de la place quand elle sera pas là. Et en fait, c'est vraiment on manque de structure pour le. OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et même quand on, parce qu'on a pensé à plein de choses et à, les professionnels, on s'est dit, on va peut-être les inscrire dans des séjours de rupture, on va peut-être, mais en fait, ils ont une temporalité telle qui est pas la nôtre, en fait. On travaille avec, enfin, c'est-à-dire, et cette histoire de temporalité, qui pour eux, l'urgence n'est pas la même que la nôtre, eh ben, c'est ça qui nous fait défaut parce que, en fait, quand elles arrivent et qu'on les a en tout cas dans les murs, on n'est pas capable, voilà, enfin en tout cas moi c'est comme ça qu'on le ressent, on n'est pas capable de les protéger parce qu'il s'agit de protection, hein. On n'est pas capable de les protéger parce que en fait quand elle arrive, eh ben faut faire son questionnaire, il faut attendre que si, il faut attendre que ça, et on attend, 3 jours sont passés, elle repart dans le réseau et des fois et c'est là où en fait le auteur victime, hein, victime auteur plutôt, je dirais dans ce sens-là. Nous on en a une en tout cas qui est bien repérée, que j'ai une situation bien en tête où elle commence. Enfin, on a commencé l'histoire, elle était victime, et là elle nous dans son récit, on sent bien que maintenant elle est passée à un autre degré. Et en fait, ça c'est une chose sur les protocoles et repérages, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est aussi j'ai l'impression que on est en train de alors là c'est une impression générale, on est en train d'outiller tout, enfin les professionnels en tout cas de la protection de l'enfance et tout ça, mais à côté de ça alors là c'est au-delà de la PJJ, à côté de ça les mineurs eux-mêmes à l'école, on n'est pas en train de les outiller sur comment est-ce qu'ils peuvent être repérés eux sur les réseaux sociaux ou autres. Pareil pour les professeurs de l'éducation nationale, on n'est pas, et je pense vraiment que pour ces questions-là, faut qu'on travaille main dans la main avec plusieurs institutions, parce que sinon ce sera difficile d'y arriver. Enfin, voilà ce que je veux dire.
Oui, je vous remercie, et vous avez mis le doigt, je crois, sur un certain nombre d'éléments qui sont importants. Alors j'ai pas la prétention d'avoir les réponses à toutes vos questions et à toutes vos inquiétudes, hein, que je crois percevoir. Ce que vous avez pu indiquer, je crois, c'est l'importance du travail en articulation entre les différents acteurs. Il faut savoir que, et peut-être que vous en parlerez tout à l'heure, mais les protocoles qui sont mis en place entre les tribunaux, la PJJ, les associations, etc., ils peuvent être mis en place au niveau du tribunal et donc du département, mais on a aussi des exemples au niveau de la cour d'appel. Et ça permet justement d'harmoniser davantage les choses au niveau d'un territoire. On a également au niveau de la PJJ justement, l'été et puis surtout des dires, capacité d'action en la matière pour essayer de porter une harmonisation. Vous savez que chaque année, les cours d'appel organisent des conférences régionales annuelles de la justice des mineurs. La PJJ y est non seulement conviée, mais en général, elle y a un rôle important. Et ça peut être une occasion justement de donner à voir les bonnes pratiques qui existent d'un tribunal à l'autre. On a également un certain nombre d'instances, hein, comme les instances quadripartites auxquelles participe la PJJ aux côtés du magistrat du parquet, du magistrat du siège, du juge des enfants et de l'ASE. Et c'est aussi le lieu pour échanger justement sur ce qu'on pourrait mettre en place en la matière, les bonnes pratiques qui existent dans le ressort voisin, etc. Vous avez également parlé du manque de lieux d'accueil. Je ne peux que vous rejoindre, évidemment, hein, en la matière, et vous indiquer que c'est justement pour cela qu'on essaye de développer les réseaux de lieux formés à accueillir des professionnels, à accompagner des professionnels et à accueillir des jeunes victimes. Et puis, je voulais simplement souligner quelque chose de très important que vous avez pu dire, la question de la sensibilisation de l'ensemble des jeunes au danger du numérique. On a parlé tout à l'heure d'un des partenaires qu'on a, qui est l'association e-enfance. Il y en a d'autres, hein, qui alertent et qui sensibilisent les jeunes à l'usage du numérique et justement aux dangers qu'ils peuvent comporter en la matière. Et je crois qu'effectivement, c'est quelque chose de très important si on veut agir en prévention.
Merci, Madame Bonatti. Bon, une dernière question.
Moi, j'avais une question, mais c'était par rapport à ce que tous les collègues disaient. Alors, une question précise sur la commission départementale. Je sais que ça existe sur le territoire national. Moi, pour ma part, il n'y en a pas sur mon territoire. On va la mettre en place. Je voulais savoir par qui c'était porté, généralement, par le parquet ou par le conseil départemental. Parce que du coup, c'est pas la même chose pour nous. La préfecture. Si c'est la préfecture, du coup, c'est plus les RLC qui sont sur le coup. Voilà. Nous, ça va se passer comme ça. Voilà, donc stratégiquement, il y a une incidence. L'autre question, c'était concernant, alors on est tout au début parce qu'on commence vraiment à en parler, mais savoir quand est-ce, c'est le but de la commission, hein, qui est tout ce qui est police, justice, santé, institutions, société civile, etc., que tout le monde se réunisse pour pouvoir développer une stratégie. Mais moi, je pensais aux parents et à tous les lieux où les mineurs se rendaient. Parce qu'on a pu voir, notamment dans les centres-villes, vous parliez d'ubérisation, mais moi je parle de Uber Eats, mais ils ont toujours une avance sur nous, qui repèrent des jeunes filles parce que ils ont du nez, hein. On les voit tout de suite, les jeunes filles ou les garçons un petit peu paumés et qui sont vulnérables, et que la société civile soit aussi informée et ou sensibilisée. Dans les trains aussi, parce que nous on est formés, donc on s'en aperçoit plus, et puis ces personnalités on les connaît. Moi je suis toujours étonnée en arrivant ici hier matin, donc une jeune fille, à mon avis jeune fille de la, voilà, je vais dire AE, assistance éducative, qui n'a pas de titre de transport, qui se rend sur Paris et qui n'est pas remise aux forces de l'ordre. Je suis étonnée en fait que la SNCF instinctivement, n'appelle pas les forces de l'ordre. Voilà. C'était juste, voilà, surtout sur la commission départementale et qui portait.
Oui, alors sur la commission départementale, je vous confirme qu'elle est placée sous l'autorité du préfet. Voilà. Elle est placée sous l'autorité du préfet, s'agissant de leurs membres. Je ne vais pas tous les lister, mais on a notamment les magistrats de l'ordre judiciaire, hein, qui participent, et donc très prochainement, puisque c'est un décret qui est en cours de préparation, les professionnels de la PJJ, les DT, qui vont y participer. Alors, je ne vais pas répondre à votre remarque sur la SNCF, parce que je ne saurais quoi vous dire. En revanche, sur l'importance d'associer les parents, hein, bien évidemment, on porte aussi une politique de soutien à la parentalité, pour justement, bon, de façon plus large, hein, pas uniquement dans le cadre de la prostitution, mais je vous rejoins sur le fait que la problématique est particulièrement prégnante en matière de prostitution. Et je voulais simplement vous rappeler que on a un partenariat qui existe avec la Fédération nationale des EPE, les écoles des parents et des éducateurs, qui sont présentes sur quasi la totalité des départements. Et qui sont à la disposition des structures PJJ, justement, pour venir apporter leur expertise en matière de soutien à la parentalité.
Merci. Merci, Madame Bonatti, d'avoir été avec nous ce matin. On continue la journée, voilà, avec justement des partenaires. Merci.
Un grand merci à vous.